Good Morning Business, la matinale de l'économie.
Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Life. Notre invité, c'est Stéphane Boujna. Bonjour, vous êtes le président du directoire d'Euronext, je le rappelle, opérateur boursier européen avec évidemment la Bourse de Paris, mais aussi celle de Milan, d'Amsterdam, d'Oslo ou encore d'Athènes. 8 trimestres que la croissance de vos bénéfices dépasse les 2 chiffres. On va reparler du premier trimestre qui est record. Il faut quand même le dire, le titre Euronext a pris 20% depuis les débuts de l'année. Vous ne faites pas partie des entreprises qui, quand elles rentrent dans le CAC 40, ont une sorte de malédiction pour vous pour l'instant boursièrement et sur le plan des résultats, tout va bien.
Oui, tout va bien. C'est comme vous l'avez dit très justement, le 8e trimestre de croissance à 2 chiffres, pas seulement d'ailleurs sur le résultat, sur le chiffre d'affaires aussi et sur le résultat net par action, tout simplement parce que il y a 2 effets. On est en train de tirer profit de tout le travail de diversification de l'entreprise qui a été fait depuis des années. On tire profit de tout le travail de gestion extrêmement rigoureuse des coûts. On a une marge d'EBITDA qui approche désormais 65%, alors que quand l'entreprise a été mise en bourse, la marge était plutôt proche de 30%. Donc il y a un énorme travail sur les coûts et sur la gestion opérationnelle, un énorme travail sur la diversification des revenus. Et puis, par ailleurs, comme une partie de notre activité est liée au volume, à peu près 17% du chiffre d'affaires d'Euronext est fait par les transactions sur les actions. Quand vous avez des mouvements comme la guerre en Iran, eh bien, il se passe des rotations d'actifs, des gens qui vendent et des gens qui achètent plus par secteur, exactement comme ce qui s'est passé l'an dernier au moment de Liberation Day, quand les tarifs américains, les tarifs douaniers ont été mis en œuvre, exactement comme 2 ans avant, 3 ans avant, au moment de la troisième invasion de l'Ukraine.
Donc la géopolitique qui pousse à la rotation des actifs, qui pousse à la hausse des volumes, vous profite.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'une partie de notre activité consiste à permettre à ceux qui veulent acheter et vendre des actifs pour gérer leurs risques, d'avoir une plateforme avec le plus de liquidité possible pour le faire. Donc, les actifs qui tournent le plus, ce sont ceux qui sont liés aux hydrocarbures et les traders de tous les produits liés à la chaîne des hydrocarbures. Mais ensuite, vous avez les actifs qui sont liés aux matières premières en général, qu'elles soient agricoles ou minérales. Et puis, vous avez les actions.
Mais vous voyez où je veux en venir, Stéphane Boujna, c'est qu'on parle de Total en disant c'est des profiteurs de guerre, ils profitent du conflit parce qu'ils vendent du pétrole. Vous êtes sur un autre secteur complètement différent, mais est-ce qu'on pourrait vous faire le même reproche ?
Je trouve que c'est une formule nulle, profiteur de guerre. C'est vraiment pour alimenter une théorie des complots qui n'aide pas à comprendre qui n'aide pas à comprendre la réalité. Il y a pas de profiteur de guerre. On a une situation où Monsieur Trump et ses alliés ont engagé des opérations. Ça a des conséquences sur un certain nombre de marchés. Ça crée de la rotation d'actifs, c'est-à-dire que des gens vendent des actions de certains secteurs qui vont être moins profitables et achètent des actions d'autres secteurs qui vont être plus profitables. La plateforme sur laquelle se font ces opérations voit ses volumes augmenter. Mais je veux dire, c'est pas un projet de capter ou d'alimenter.
Non, c'est sur l'aspect rente et l'aspect
on profite d'un contexte géopolitique.
Vous savez,
quand on était en croissance dans les autres trimestres, puisque c'est le 8e trimestre de croissance, on disait pas vous êtes des profiteurs de paix. Donc, je suis au 8e trimestre de croissance à 2 chiffres, et il y en a eu 7 autres dans lesquels il n'y avait pas la guerre en Iran.
Sur les indices, justement, on le voit, ça tient même plus que bien, parce qu'aux États-Unis, on enchaîne quand même les records. Quand on voit la différence avec les marchés obligataires, qui eux sont plutôt en difficulté avec des taux qui montent, est-ce que cette dissonance vous inquiète, vous interpelle ?
Non, d'abord, je suis pas né pour être inquiet, je suis né pour prendre des décisions et essayer de traiter les problèmes qu'on notre génération doit traiter. Donc, c'est pas une question d'inquiétude. Ce qui est vrai, c'est que pour prendre l'exemple de la France, le CAC est à 8000 points. Juste avant le Covid, en 2020, le CAC était à 6000 points. C'est-à-dire que avant, on est aujourd'hui à un niveau du CAC qui est supérieur à ce qu'il était avant le Covid, avant l'invasion de l'Ukraine, avant l'arrivée de Trump, avant les tarifs douaniers, avant l'inflation. Ouais. Donc, les entreprises offrent des performances que les marchés considèrent assez bonnes. Le CAC est aujourd'hui au même niveau qu'il était à peu près il y a un an. Donc, c'est dire que, en dépit de la guerre en Ukraine, les marchés considèrent que les perspectives de croissance des entreprises du CAC 40 sont comparables à ce qu'elles étaient il y a un an. Est-ce trop optimiste? Peut-être, mais quand on parle aux gestionnaires d'actifs, ce qu'ils vous disent, c'est que, un, les résultats publiés depuis le début de l'année par les entreprises sont bons. Deuxièmement, ils ont la conviction que la guerre est encore circonscrite géographiquement et encore limitée dans le temps. Évidemment, si ça durait encore, l'opinion changerait, mais le sentiment, c'est que beaucoup des choses sont réversibles. Il y a un débat pour savoir combien de temps faudra-t-il, non pas pour vider le détroit d'Ormuz, mais surtout pour remettre en état les infrastructures de production et de raffinage qui ont été détruites. Bien sûr, il y a des secteurs dont on parle le plus qui sont affectés. Les hydrocarbures, la production d'hélium qui est un dérivé du gaz du Qatar, etc. Bien sûr, mais le sentiment général, c'est qu'à l'échelle du CAC 40, ça n'a pas de différence majeure. Je pense que ça peut évoluer, parce que bien sûr, si les choses... Aujourd'hui, il y a que
vous avez
5...
vu les indices PMI d'hier sur le flash, elles sont terrifiantes. C'est-à-dire qu'on a des secteurs sur les services où on est sur une situation économique. Alors là aussi, c'est du sentiment, c'est de l'anticipation, mais on est au niveau du Covid.
Mais vous avez absolument raison de souligner ce point. C'est que je parle du CAC parce que c'est un indice qu'on peut suivre dans la durée, et mais qui est biaisé par le fait qu'il représente les 40 plus grosses entreprises, évidemment, qui sont évidemment les plus mondialisées. Et donc, ça n'est pas l'économie française. C'est les grandes entreprises françaises. C'est différent. Et donc, vous faites référence aux PME, bien sûr, là, vous avez les effets de baisse de la consommation, les effets de renchérissement des entrants et notamment des hydrocarbures, où là, probablement, vous avez des effets que vous indiquez.
Et vous regardez l'état de l'économie française. Vous êtes dans quelle situation? On a vraiment deux camps, parce qu'on a Sébastien Lecornu et le gouvernement qui dit tout va bien, on résiste. Et puis, on a ceux qui quand même regardent la hausse des taux longs, les PMI, qui regardent la hausse du chômage. Vous êtes dans quel camp?
Je ne sais pas, dans un camp. J'essaye de traiter la complexité à la place qui est la mienne dans mon entreprise. Mais si vous me demandez quelle analyse de moyen terme je fais, je pense que le sujet majeur, c'est l'impasse dans laquelle est notre système de redistribution. L'impasse totale dans laquelle est notre système d'allocation de la dépense publique. C'est ça le vrai cancer.
Vous dites impasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir.
L'impasse, ici, on en sort par un traitement extrêmement radical. L'impasse, parce que quand vous avez... l'an dernier, nous avons dépensé 65 milliards d'euros des impôts que nous payons pour payer nos créanciers, pour payer le coût de notre dette publique. Cette année, nous allons probablement dépenser autour de 72 milliards. L'année prochaine, un peu plus de 80 milliards et peut-être 90 milliards. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 80 à 90 milliards? Ça veut dire qu'on va dépenser l'année de l'élection présidentielle pour payer nos créanciers beaucoup plus que ce qu'on paye ensemble pour les enfants qui de l'école maternelle jusqu'au bac, les enfants et les jeunes qui vont à l'école. Ça veut dire que l'effort qu'on nous demande d'allouer à nos créanciers, qui est lié à notre stock de 3400 milliards de dettes, au fait qu'on émet 350 milliards de dettes environ en plus chaque année, est colossal. Donc quand vous avez ce niveau d'endettement et une démographie qui est défavorable avec moins de gens qui entrent sur le marché du travail que de gens qui en sortent, eh bien vous avez une situation qui est une impasse, sauf à agir sur plus de quantité de travail, moins de dépenses publiques et plus de prélèvements sur la consommation.
Est-ce que vous parlez aux candidats, la multitude de pré-candidats à la présidentielle? Est-ce que certains vous interrogent justement sur la situation économique du pays?
Oui,
est-ce que vous avez des échanges?
Oui, pas tous, mais c'est un certain nombre sont curieux de savoir pas seulement ce qu'il faut faire, parce que ça, tout le monde a à peu près une idée précise de ce que je décris comme étant une impasse, mais sur la manière de doser la répartition de l'effort, etc. Et en fait, ce que je leur dis, parce que Euronext opère la bourse d'Athènes, de Lisbonne, de Milan, de Dublin, donc de 4, de 5 pays qu'on appelait autrefois les PIGS, Portugal, Irlande, Italie,
Grèce. Aujourd'hui, sont loin de la situation d'il y a 15 ans.
La Grèce célèbre sa troisième année d'excédent budgétaire, le Portugal aussi. Donc, ce que je leur dis, c'est que d'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait de manière assez radicale, ont demandé à leur population des efforts pour se sortir de l'impasse de la dette. Avec des larmes, mais ça c'est l'effort. Vous savez, Thucydide disait se reposer ou rester libre, il faut choisir. On peut continuer à emprunter beaucoup et à laisser de la dette à nos enfants, ça c'est très facile. Simplement, à un moment, le gratuit n'existe pas, il faudra bien rembourser cet argent. Parce qu'on dit que les Français ne savent pas faire de sacrifices. En fait, ils font un sacrifice de manière assez radicale, déterminée, tous les jours, c'est le sacrifice de leurs propres enfants. Parce que quand vous décidez de laisser cette montagne de dettes à vos enfants, de consommer plus que ce que vous pouvez vous payer, vous laissez la dette à vos enfants. Donc, on discute de ce genre de choses. Après, la question, c'est la faisabilité politique de ce genre d'exercice et quel est le dosage qu'ils pourront mettre dans le débat présidentiel de la partie du sang, de la sueur et des larmes par rapport à demain, distribution gratuite de churros.
Il nous reste quelques secondes. Vous discutez avec tout le monde ou vous faites partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas discuter avec certains partis politiques comme le Rassemblement National, par exemple?
Non, j'ai pas eu de dialogue avec le Front National, le Rassemblement National. À mon âge, on dit encore Front National, ni avec LFI d'ailleurs. Je pense que si ces gens-là nous invitent à l'Assemblée, évidemment, nous irons parce que ou au Sénat, enfin en l'occurrence, il n'y a aucun des deux au Sénat. Mais
publiquement.
Non seulement il faut que ça soit public, il faut que ce soit dans le cadre des institutions. Moi, je parle à tous ceux que les Français ont élus pour les représenter au Parlement, pour les aider à se former une opinion au Parlement pour écrire la loi. En revanche, je ne souhaite pas légitimer, crédibiliser des forces qui sont des forces de la fermeture, du repli, et qui sont, de mon point de vue, toxiques à la prospérité des entreprises. Quand on propose d'inverser la hiérarchie des normes et de rendre la loi française supérieure au traité, ben, ce qu'on propose, en fait, c'est de quitter l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de construction européenne possible sans la hiérarchie des normes qui prévaut.
Donc, là, vous parlez de l'Assemblée
nationale. Oui, c'est très important. C'est pas un préjugé que j'ai. C'est pas un sentiment. C'est une opinion qui est que, bien sûr, à l'intérieur de mon entreprise, je suis d'une neutralité absolue et chacun exprime, chacun respecte le lieu de l'entreprise de la manière la plus neutre possible. Mais si on est convoqué ou invité au Parlement, on doit y aller parce que ce sont des gens qui sont élus par les Français qui nous reçoivent. Mais sur le fond, pour contribuer au débat public, je pense que c'est très grave de prendre des risques, de sombrer dans le repli, parce que les Français seront plus pauvres si on sombre dans un détricotage de la construction européenne.
Merci beaucoup Stéphane Boujnah d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.